Alors, je suis prêt à parier que personne ici n'éprouve une haine viscérale à l'encontre de Jésus. Je me trompe? Si c'était votre cas, j'imagine que ça se verrait assez vite. Vous pourriez sans doute pas rester impassible très longtemps dans ce lieu, parce que ici, d'habitude, on parle beaucoup de Jésus, et d'habitude, on parle beaucoup de Jésus en bien. Donc, dans la mesure où j'ai vu personne cet après-midi devenir tout rouge et se lever d'un bond et quitter la salle en claquant la porte, je suppose que pour vous, le personnage de Jésus est au moins un peu digne d'intérêt. Peut-être même que le personnage de Jésus vous est sympathique. Qui sait? Peut-être même que Jésus suscite en vous une certaine fascination. La plupart d'entre nous, j'en ai conscience, hein, nous nous disons chrétiens. Chrétiens, ce qui veut dire que pour nous, Jésus est même une référence. Chrétien, comme dans Christ. Jésus-Christ. Jésus est donc pour nous une référence. Et finalement, quand on regarde en dehors des murs de notre Église, et même en dehors des murs de l'Église chrétienne en général, on peut constater, à mon avis, que Jésus a plutôt une bonne réputation, non, même à l'extérieur de l'Église. Luc Ferry, par exemple, le philosophe qui se dit agnostique, ancien ministre de l'Éducation nationale, parle, dans plusieurs de ses livres, il parle très élogieusement de Jésus. Dans ses ouvrages comme Jésus et la révolution judéo-chrétienne, ou encore son livre intitulé Le cardinal et le philosophe, ou encore, un titre encore plus évocateur, La tentation du christianisme. Luc Ferry, philosophe, agnostique, ancien ministre de l'Éducation nationale, parle de manière très élogieuse de Jésus. Le rabbin Milton Steinberg, rabbin américain, philosophe également, un juif conservateur qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle, a écrit ceci. Pour des juifs, ce Jésus apparaît comme un esprit extraordinairement beau et noble, embrasé de vie et de compassion pour les hommes, en particulier pour les malheureux et les égarés, d'une piété profonde, et avec une perception aiguë de la nature humaine, possédant un don remarquable pour la parabole et l'épigramme. De plus, un juif zélé, fortement ancré dans la foi de son peuple, un maître fermement engagé à enseigner les principes religieux et moraux du judaïsme. Un juif, c'est pas un chrétien, mais qui parle de manière très élogieuse, lui aussi, de Jésus. Même les musulmans qui se fient au Coran estiment que Jésus était un grand prophète. Donc Jésus a plutôt une bonne, voire même une très bonne réputation, non? Dans l'Église, d'une part, et vous me direz heureusement, dans l'Église chrétienne, mais aussi en dehors de l'Église chrétienne. Mais le Jésus de la Bible mérite-t-il qu'on l'admire seulement? Le Jésus de la Bible mérite-t-il qu'on l'admire seulement? Est-ce suffisant de considérer Jésus comme un grand homme, un grand enseignant, un grand prophète, un héros de son époque, une référence pour nous aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant? C'est cette question qui va être soulevée dans le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier ensemble, et à laquelle ce texte va répondre en disant non, c'est pas suffisant. Bon, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Jésus ne doit pas seulement faire l'objet de notre admiration, mais il doit faire l'objet de notre foi. Jésus ne doit pas seulement faire l'objet de notre admiration, mais il doit faire l'objet de notre foi. Et on va voir dans un instant ce que ça veut dire. Et j'espère que vous verrez que cette leçon, somme toute assez simple, comporte quand même des conséquences importantes pour notre vie, pour votre vie, comme pour la mienne. Le texte va donc nous rapporter, vous allez le voir, chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu, verset 1 à 17, il va nous rapporter une série de guérisons miraculeuses que Jésus va réaliser, et au travers desquelles, au travers de ces guérisons, donc, on va voir que Jésus est bien plus qu'un prophète. Bien plus qu'un prophète, en raison d'une part, premièrement, d'une puissance exceptionnelle, deuxièmement, d'une autorité exceptionnelle, et troisièmement, d'une mission exceptionnelle. Et à cause de tout cela, donc, Jésus mérite bien plus que simplement notre admiration. Lisons le texte, Matthieu chapitre 8, les versets 1 à 17. Cette prédication s'inscrit donc dans la série de messages que je suis en train de faire, que je fais depuis plusieurs mois, qu'on avait interrompu pendant les mois de juillet, enfin une partie du mois de juillet et le mois d'août, et que nous reprenons aujourd'hui une série de messages consacrés à cet évangile selon Matthieu. Je lis le texte. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un « Va » et il va, et à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous arrêtons là pour la lecture de la parole de Dieu et je vais prier avant d'aller plus loin. Prions. Merci pour ce texte, Seigneur, que nous reconnaissons avoir été inspiré par toi de sorte que ce qu'il a à nous enseigner est absolument infaillible. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton esprit maintenant afin qu'il éclaire notre intelligence et qu'il nous rende réceptifs à ce que tu veux nous dire, Seigneur, au moyen de ce texte. Aide-nous maintenant, donc, s'il te plaît, et sanctifie la prédication de ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, donc, ne doit pas seulement faire l'objet de notre admiration, mais il doit faire l'objet de notre foi. C'est la leçon de ce texte. Et la première chose que Matthieu veut nous faire comprendre, c'est que Jésus est déjà un prophète hors norme en raison du genre de puissance qu'il est capable de déployer. Alors il faut se rendre compte, avant toute chose, que cet épisode se passe juste après le fameux sermon sur la montagne, le fameux sermon de Jésus sur la montagne. Ce sermon a occupé une bonne part du texte puisqu'il a occupé les trois chapitres précédents, chapitres 5, 6 et 7. Et juste après, voici ce qui se passe. Jésus, à la fin de son sermon, apparaît donc comme un grand enseignant, quelqu'un capable de faire de bons discours. Il est un enseignant si grand, si admirable, si j'ose dire, que le texte dit à la fin du chapitre précédent, à la fin du chapitre 7, le texte dit que les gens qui l'écoutent sont frappés de son enseignement. Chapitre 7, verset 28, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Et la raison pour laquelle l'auteur du texte, à savoir Matthieu, poursuit son récit ensuite en racontant immédiatement une série de miracles assez spectaculaires, c'est pour confirmer le fait que Jésus est bien, au moins en tout cas, un prophète, un vrai prophète envoyé par le vrai Dieu. Et en effet, dans l'Ancien Testament, et ça c'est pour le contexte, si vous voulez, de la culture juive et de la religion des juifs à cette époque, dans l'Ancien Testament, le ministère des grands prophètes était parfois, en effet, confirmé par des miracles. Qu'on pense à Moïse, par exemple, et les miracles que Dieu a accomplis par lui. Qu'on pense à Élie et à son successeur Élisée, n'est-ce pas, et les miracles qu'ils ont accomplis et qui confirmaient leur ministère, leur service, leur vocation en tant que prophète envoyé par Dieu. Sauf que là, en ce qui concerne Jésus, il y a au moins deux choses qui devraient retenir notre attention, qui devraient nous surprendre et qui montrent que la guérison du lépreux, puisqu'on parle d'abord de ce premier miracle, la guérison du lépreux, deux choses qui montrent que cette guérison constitue la manifestation d'une puissance inédite pour un prophète. La première chose qui devrait nous surprendre, c'est que la guérison du lépreux, sollicite, dans le texte en tout cas, sollicite la volonté et la capacité de Jésus, et non explicitement, en tout cas, la volonté et la capacité de Dieu. Le lépreux, pour bien me faire comprendre, le lépreux s'adresse directement à Jésus, il dit « Si tu veux, tu peux me rendre pur ». Jésus dit « Je le veux, sois pur ». Surprenant, quand, en ce qui concerne les prophètes de l'Ancien Testament, d'habitude, ils devaient prier Dieu et intercéder pour que Dieu accomplisse le miracle. La deuxième chose qui devrait nous surprendre, c'est que Jésus touche le lépreux pour le guérir, ce qui montre que Jésus est plus fort que l'impureté du lépreux. Il faut savoir que la lèpre était considérée dans la culture juive, et d'ailleurs dans les textes sacrés des Juifs, dans l'Ancien Testament, la lèpre était considérée comme une forme terrible d'impureté. Pratiquement deux chapitres entiers du fameux livre du Lévitique qu'on est en train d'étudier en études bibliques, pratiquement deux chapitres entiers sont consacrés à cette maladie pour donner aux Israélites toutes sortes de consignes par rapport à ce que les malades devaient faire ou ne devaient pas faire. Et il y avait finalement cette règle de base qui résumait un petit peu toutes les autres. Tout ce qui touche un lépreux devient impur à son tour. Voilà. En gros, c'était la règle de base. Donc les lépreux devaient faire extrêmement attention à ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils allaient. Lévitique 13, versets 45 et 46, nous dit ceci. « Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. » La raison, c'est pour que les gens puissent le voir et savoir qu'il était lépreux et donc impur, qu'il ne fallait pas s'approcher. Je poursuis. « Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» pour que les gens qui ne le voient pas arriver soient au courant qu'il arrive quelqu'un d'impur derrière eux et qu'ils puissent passer leur chemin pour que le lépreux, pour qu'il ne s'approche pas finalement du lépreux. Et je poursuis. « Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, le lépreux habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. » Et là, dans ce texte, un lépreux s'approche de Jésus. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étend la main et le touche. Jésus touche un lépreux. Et il dit « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, le texte nous dit « Il est purifié. » Jésus lui donne ensuite une instruction, lui dit de n'en parler à personne parce qu'en fait, Jésus ne veut pas à ce moment-là de son ministère avoir ce genre de publicité. Mais il lui dit surtout, va te présenter au temple et au sacrificateur, fais exactement ce que prescrit la loi de Moïse pour que le sacrificateur et le public puissent attester et voir que tu es bien pur. Et donc il est ainsi réintégré dans la société en accomplissant ses rites. Jésus apparaît donc comme un prophète hors norme en raison du genre de puissance qu'il est capable de déployer. C'est un peu comme dans Astérix aux Jeux Olympiques, dans la bande dessinée, où les Romains choisissent leurs meilleurs légionnaires, vous avez sûrement lu cet épisode, où les Romains choisissent leurs meilleurs légionnaires pour participer aux Jeux Olympiques, un homme extrêmement musclé, n'est-ce pas, du nom de Claudius Cornedurus. Et un jour, Claudius Cornedurus rencontre Astérix et Obélix dans la forêt, et alors il leur montre tout ce qu'il est capable de faire, du sprint, de la boxe, du lancer de javelot avec des arbres, d'accord, il est costaud, ce Claudius Cornedurus. Mais ensuite, Astérix et Obélix lui montrent à leur tour ce que eux ils savent faire. Et sans aucun effort, ils font au moins 10 fois mieux que le légionnaire. Ce qui a pour effet de profondément le déprimer, ce pauvre Claudius, qui rentre ensuite tout penaud au camp des Romains, qui ramasse un balai et se met à nettoyer la caserne. Contraste étonnant, surprenant même, entre quelqu'un qu'on pensait être puissant et puis ceux qui sont vraiment puissants. Et de même, dans le texte de Matthieu, ce miracle de la guérison du lépreux est censé nous impressionner aussi. Nous impressionner. On pensait que Moïse était fort. On pensait qu'Élie était fort et qu'Élisée était fort comme prophète. Et là, il y a Jésus qui déploie une puissance inédite pour un prophète. Les Juifs qui étaient là, présents et qui ont vu ce qui s'est passé, et les Juifs qui en ont entendu parler, et les Juifs qui, jusqu'à ce jour, peut-être lisent ce récit, devaient bien connaître et doivent bien connaître l'histoire de la guérison d'un autre lépreux du nom de Naaman par un autre prophète du nom d'Élisée dans l'Ancien Testament. Et à titre de comparaison, écoutez ce que nous rapporte l'Ancien Testament à ce sujet. Pour comparer la façon dont Élisée a été l'instrument de Dieu pour la guérison d'un lépreux et la façon maintenant dont Jésus guérit un lépreux. Écoutez ce que le texte nous rapporte, c'est dans 2 Rois 5, versets 6 à 12. Le roi de Syrie, donc, à cette époque-là, envoie une lettre au roi d'Israël pour solliciter son aide, et écoutez ce qui se passe. « Quand cette lettre te sera parvenue, c'est le contenu de la lettre, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, écoutez bien, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre ?» Et un peu plus loin, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Vous voyez, miracle qui atteste la validité du ministère d'un prophète. Hein ? Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné. Et il s'en alla en disant, ben voici ce que je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, la manna et le parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Alors le reste de l'histoire raconte que Naaman s'est quand même baigné dans le Jourdain finalement, un peu à reculons, mais il est allé. Et il a bien été guéri. Pas mal, ce qu'a fait Élisée, n'est-ce pas, grâce à Dieu, un vrai prophète de Dieu en Israël. Mais combien la puissance de Jésus est beaucoup, beaucoup plus impressionnante, n'est-ce pas? Et donc la première chose que Matthieu veut nous faire comprendre, c'est bien que Jésus est déjà un prophète hors norme, en raison du genre de puissance qu'il est capable de déployer. Et donc, puisqu'il est un prophète hors norme, à votre avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignements de Jésus mérite notre attention. Oui, il mérite notre attention, mais pas juste une attention curieuse, comme celle de quelqu'un qui cherche simplement à être cultivé. Pas juste une attention bienveillante même, comme celle du philosophe qui reconnaît chez Jésus de bons préceptes humanistes utiles pour la société. Pas non plus une attention simplement scientifique ou académique, comme celle du sociologue des religions qui veut mieux connaître le christianisme. Parce que Jésus est un prophète hors norme. Ce qu'il doit susciter chez nous comme attention, c'est une attention extrême, mêlée de crainte, car la personne qui parle ici, c'est la personne la plus puissante qui ait jamais marché sur la terre. Un vrai prophète de Dieu, oui, mais un prophète hors norme, hors catégorie. Mais regardons la suite. Et la deuxième chose que Matthieu veut nous faire comprendre, versets 5 à 13, cette fois, à travers le récit d'une deuxième guérison, la deuxième chose qu'il veut nous faire comprendre, c'est que Jésus a une telle autorité, que notre réponse à cette autorité conditionne notre appartenance au royaume de Dieu. Jésus a une telle autorité que notre réponse à cette autorité conditionne notre appartenance au royaume de Dieu. Et donc Matthieu nous raconte ce deuxième miracle. Et cette fois, c'est un centenier romain, un officier donc, qui sollicite Jésus pour qu'il guérisse son serviteur qui est très malade. Jésus propose de se rendre chez lui, mais le centenier a une réponse à ce moment-là qui révèle, d'après Jésus, une foi exemplaire. Verset 10. Et quelle est cette réponse du centenier? Le centenier affirme que Jésus a l'autorité de guérir quelqu'un par une simple décision. Le centenier affirme que Jésus a l'autorité de guérir quelqu'un juste parce qu'il le décide, par une simple décision. D'accord ? Pas par un rite, pas par un mouvement, un voyage ou quoi que ce soit, par une simple décision. Et le centenier ne s'en rend peut-être pas compte clairement. En tout cas, le texte ne nous le dit pas, mais cette prérogative, en fait, appartient à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut guérir par une simple décision de sa part. Il n'y a que Dieu qui a cette puissance-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le centenier reconnaît que Jésus est au moins un agent de la puissance divine et qu'il est au moins investi de l'autorité de Dieu. Au moins comme un centenier lui-même serait investi de l'autorité de ses chefs. Et c'est un peu l'analogie qu'il veut faire ici, le centenier. Moi aussi, je suis investi d'une autorité de mes chefs. C'est pourquoi je peux ordonner et les choses arrivent avec mes soldats. Et il reconnaît donc ce genre d'autorité, mais une autorité divine, en Jésus. Le centenier romain est donc ici, dans cet épisode. Il est pleinement convaincu de l'autorité de Jésus et il est pleinement soumis à l'autorité de Jésus. Et Jésus dit que ça, il dit que ça, il fait comprendre aux gens qui sont là que ça, c'est une posture qui conditionne l'appartenance de quelqu'un au royaume de Dieu. Et Jésus dit qu'il y a des juifs, ceux qu'il appelle les fils du royaume, c'est une référence aux juifs de son époque, il y a des juifs, dit-il, qui n'ont pas cette foi, ce genre de foi-là, qui leur permet d'appartenir au royaume. Et il dit qu'il y a des non-juifs, des gens venus d'Orient et d'Occident, des étrangers, comme le centenier romain d'ailleurs, qui ont cette foi et qui auront cette foi et qui par conséquent font partie ou feront partie du royaume de Dieu, que Jésus appelle le royaume des cieux dans ce passage. Jésus fait donc comprendre à son auditoire ici, et Matthieu nous fait comprendre à notre tour, à nous aujourd'hui, que les signes extérieurs d'appartenance au royaume de Dieu, les signes extérieurs d'appartenance au royaume de Dieu, ne suffisent pas à garantir cette appartenance. Les juifs de l'époque de Jésus, les fameux fils du royaume, c'est comme ça que Jésus les appelle, ils pouvaient se prévaloir de toutes sortes de signes extérieurs d'appartenance au royaume des cieux, la descendance d'Abraham, circoncis, fidèles au temple et dans les sacrifices, qui donnent la dîme de tous leurs revenus, y compris de leurs épices, signes extérieurs de leur appartenance au royaume de Dieu. Mais Jésus dit non, les signes extérieurs ne suffisent pas. Ce qui est important, c'est la vraie foi, la foi en Jésus, dont le centenier à ce moment-là est en train de faire preuve. Ce genre de foi-là permet aux hommes, juifs et non-juifs, de faire partie du royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour le dire clairement, c'est-à-dire d'entrer au paradis. Si l'on s'en réfère aux prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de manière figurative d'un banquet un jour, dans le texte que Jonas a lu en introduction au culte, de ce banquet auquel seront conviés les croyants après que la mort ait été anéantie par Dieu. C'est une référence au paradis tout simplement, à la vie éternelle avec Dieu. Et seule la vraie foi en Jésus permet aux hommes de faire partie de ce royaume, d'avoir place à ce banquet. Et cette foi qui sauve donc se présente ici sous la forme d'une soumission humble à l'autorité de Jésus. Alors pour vous faire comprendre ce que ça peut impliquer, imaginez que vous ayez un besoin urgent d'argent. Peut-être que vous n'avez pas besoin de l'imaginer d'ailleurs. Vous cherchez quelqu'un donc qui va pouvoir très rapidement mettre des sous sur votre compte courant. Alors vous prenez votre téléphone et vous regardez les noms dans votre répertoire. Service client d'Orange, non ça va pas aller. Secrétariat de la fac ou de l'entreprise, non. Salon de coiffure du quartier, non. Pasteur Alex Saran, non. Et là, vous tombez sur, un peu plus bas dans la liste, conseiller bancaire. Ah, voilà quelqu'un qui peut, par une simple décision, mettre de l'argent sur votre compte. Par un clic, en fait, il peut mettre de l'argent sur votre compte. Qui appelez-vous, par conséquent ? Vous n'allez pas appeler le pasteur ? Vous n'allez pas appeler le coiffeur, vous allez appeler bien sûr le conseiller bancaire parce que vous êtes convaincu de l'autorité qu'il a et qui lui permet de prendre efficacement cette décision, s'il le veut. Et votre posture de soumission, si j'ose dire, devant cette autorité, va ensuite se traduire pratiquement par le fait de lui transmettre effectivement les trois derniers bulletins de salaire, l'avis d'imposition, le justificatif de domicile, enfin, toutes les pièces qu'il vous demandera, vous le ferez. Et c'est comme ça que cette posture de soumission devant son autorité que vous reconnaissez va se traduire ensuite dans les actes. Comportement normal qui procède donc de cette posture de soumission à l'autorité de cette personne, autorité que vous reconnaissez. Et c'est normal aussi donc de se soumettre de la même manière à l'autorité de Jésus, s'il en est convaincu qu'il est lui-même investi de l'autorité de Dieu, comme est convaincu le centenier. C'est cette autorité-là, une autorité divine qui permet à Jésus de guérir quelqu'un à distance, parce qu'il le décide seulement, simplement par une décision de sa part. Et c'est cette autorité aussi de Jésus, une autorité divine qui permet à Jésus de dire qui appartient au royaume de Dieu, qui n'appartient pas au royaume de Dieu. Et on a envie de dire, mais pour qui il se prend Jésus ? Ben, il se prend pour qui il est ? Celui qui a ce genre de prérogative, celui qui est investi d'une autorité divine. Et de nos jours, Jésus se présente un peu, quand on regarde un peu les médias, les bibliothèques, Internet ou que sais-je encore, de nos jours, Jésus se présente un peu comme un nom dans un répertoire, n'est-ce pas ? Et à côté de ce nom, il y a d'autres noms, des noms de philosophes, des noms de dirigeants religieux, des noms de politiciens, des noms de stars de la musique, des noms de stars du cinéma, etc. etc. Il y a sans doute aussi des noms de prophètes dans le même répertoire. Mais une des différences entre Jésus et tous ces autres noms dans le répertoire, d'après ce texte, c'est que Jésus a une telle autorité que personne d'autre n'a. Il a une telle autorité que notre réponse à cette autorité conditionne notre appartenance au royaume de Dieu. Et là, dans le texte, cette autorité-là est manifeste dans la façon dont il guérit le serviteur du centenier, par une simple décision, sans même y aller. Comment se traduit votre soumission à l'autorité de Jésus aujourd'hui, si toutefois cette soumission existe chez vous? Votre soumission à l'autorité de Jésus consiste-t-elle simplement à venir à l'église le dimanche, à prendre régulièrement la Sainte Cène, à avoir un ou deux posters chrétiens à la maison, à donner de l'argent à des œuvres caritatives, à essayer d'être gentil, à essayer d'avoir une vie plutôt honnête? Tout ça, c'est très bien, rassurez-vous. Mais le texte nous dit quoi ici? Il nous dit que les signes extérieurs d'appartenance au royaume de Dieu ne suffisent pas à garantir cette appartenance. Seule la vraie foi en Jésus nous permet de faire partie du royaume de Dieu. Et cette foi, cette vraie foi, consiste à être soumis dans son cœur à l'autorité de Jésus. Quand on est soumis dans son cœur, c'est-à-dire quand on est soumis sincèrement en fait, hein, quand on ne fait pas semblant, quand on est réellement dans son cœur soumis à l'autorité de Jésus, alors non seulement on a les signes extérieurs d'appartenance au royaume de Dieu, mais en plus on cherche véritablement, humblement, résolument à faire ce que Jésus nous demande, n'est-ce pas, dans tous les domaines de notre vie, c'est normal, on cherche à le connaître, ce Jésus, on cherche à l'honorer. Finalement, toute notre vie se retrouve conditionnée par Jésus. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous pouvez dire que c'est votre cas? Est-ce que vous pouvez dire, si ce n'est pas votre cas, parce que ce n'est pas mon cas, en tout cas, est-ce que vous pouvez dire au moins que c'est votre désir, que c'est votre souhait le plus sincère, que votre vie soit tout entière conditionnée par le Seigneur Jésus? Mais regardons la fin du texte qui nous aide à comprendre un peu mieux pourquoi Jésus devrait susciter une réponse si radicale de notre part. La troisième et dernière chose que Matthieu veut nous faire comprendre, c'est que Jésus est venu se charger, ni plus ni moins, que de la condition déchue des hommes. Jésus est venu se charger, ni plus ni moins, que de la condition déchue des hommes. Alors Matthieu nous raconte cette fois une troisième guérison, cette fois la guérison de la belle-mère d'un de ses disciples, à savoir la belle-mère de Pierre. Et quand on arrive au verset 15 du texte, on est censé se rendre compte à ce moment-là d'une chose, c'est la diversité étonnante qui existe entre ces trois guérisons dont on vient de parler. Le lépreux, le serviteur du centenier et la belle-mère de Pierre. La première guérison concerne un lépreux, juif, mais impur du fait de sa maladie, que Jésus touche pour le rendre pur, à la demande du lépreux d'ailleurs. La deuxième guérison concerne un païen sans doute, en tout cas le serviteur d'un païen, d'un non-juif, gravement malade, que Jésus ne rencontre même pas et qui est guéri, non pas à la demande du serviteur, mais qui est guéri à la demande d'un tiers, sans même que Jésus rencontre le malade. Très différent, très différent. Il n'y a pratiquement rien de commun entre ces deux situations d'ailleurs. La troisième guérison concerne une femme qui appartient au cercle des proches de Jésus, et franchement qui ne semble pas être très malade, et en plus elle ne demande rien. Elle est couchée avec de la fièvre. Combien de fois ça vous est arrivé dans votre vie de rester couché au lit parce que vous étiez fiévreux? Ce n'était pas extrêmement grave. D'accord? Grande diversité entre ces trois miracles. Et comme pour nous aider à en tirer les conclusions, Matthieu ajoute au verset 16 qu'il y a aussi des démoniaques qui sont délivrés par sa parole, donc pour ajouter à la diversité, et même, dit-il, tous les malades sont de toute façon guéris. Donc il n'y a pas plus de diversité que cela, hein? Tous les malades. Puissance et autorité exceptionnelle, on en a parlé, inédite et totale. Jésus peut guérir n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Et là, Matthieu va faire un rapprochement avec une prophétie de l'Ancien Testament qui utilise à un moment donné, dans cette prophétie, le champ lexical de la maladie et qui parle en fait de la venue promise dans l'Ancien Testament du Messie qui devait délivrer les croyants des conséquences de la chute de l'humanité, c'est-à-dire des conséquences du fait que les hommes ont voulu vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Conséquences terribles d'après la Bible. Parmi ces conséquences, il y a la présence du mal dans le monde, y compris de la maladie et de la mort. Et Matthieu est en train de dire ici, donc l'auteur du texte, vous voyez comment Jésus a guéri les malades de manière si puissante, dans des situations si diverses. C'est le signe, dit Matthieu, que le Messie, comme promis, est venu se charger efficacement de nos faiblesses et de nos maladies, c'est-à-dire de notre condition déchue. En fait, en faisant ce rapprochement, avec cette prophétie qui était bien connue des Juifs, hein, il faut le dire, et qui concerne la venue du Messie, Matthieu veut montrer à ses lecteurs que Jésus est bien plus qu'un guérisseur. Il ne veut pas qu'on pense à Jésus comme simplement quelqu'un qui guérit des malades. Finalement, ce qui doit retenir l'attention, ce ne sont pas les miracles qui nous sont rapportés dans ce texte, mais ce vers quoi ces miracles pointent. Et qui est bien plus important en fin de compte. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit, pour les hommes, d'être délivrés de manière efficace, une fois pour toutes, du mal et de la mort, ce qui comprend la maladie, et d'être restaurés pour toujours dans une relation personnelle avec Dieu. C'est ça que le Messie est venu faire. Il n'est pas venu simplement guérir des malades, mais en guérissant des malades. Cela était le signe que le Messie était bien venu faire quelque chose d'encore plus important. Délivrer les hommes de toutes les conséquences de leur séparation d'avec Dieu, de toutes leurs conditions déchues. Jésus est venu se charger ni plus ni moins que de la condition déchue des hommes. C'est sa mission, une mission exceptionnelle. Alors imaginez que vous alliez chez le médecin, parce que vous êtes malade, et le médecin vous dit que vous êtes atteint d'une maladie génétique, une maladie mortelle, mais qui peut se guérir à condition de suivre le bon traitement. Alors il vous écrit une ordonnance dont il vous dit de suivre scrupuleusement les indications. D'accord ? Bon, très bien. Vous quittez le cabinet du médecin, vous rentrez chez vous, et en chemin, vous vous arrêtez à la première pharmacie. Et problème, ils n'ont pas le médicament qui vous a été prescrit. Alors vous faites un détour, vous arrêtez à une autre pharmacie. Ils ne l'ont pas. Vous en faites une autre. Puis une autre. Puis encore une autre. Et le médicament est introuvable. Personne n'en a. Et vous vous rendez compte à ce moment-là, la boule au ventre, que malgré toute la compétence de votre médecin, malgré la fiabilité de son ordonnance, vous allez mourir de votre maladie faute de médicaments. Vous savez, parfois on pense à la religion comme à une forme de médecine de l'âme. On pense à Dieu comme à un grand médecin. C'est un des surnoms que nous avons pour Dieu, le grand médecin. On pense aux textes sacrés comme à des prescriptions médicales. Et on essaie de toutes nos forces de suivre scrupuleusement les instructions. Mais le problème que beaucoup de gens constatent, c'est qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a jamais de médicaments, juste des ordonnances. C'est horrible de vivre dans un monde où il n'y a que des ordonnances et pas de médicaments, n'est-ce pas ? Et on ne trouve jamais les ressources en soi pour s'extirper des conséquences de notre séparation d'avec Dieu. On n'est pas assez fort pour expier nos propres fautes. On n'est pas assez fort pour vaincre la mort. On n'est pas assez fort pour s'assurer à soi-même de vivre éternellement en présence de Dieu dans son paradis. Mais voici la bonne nouvelle. Le christianisme, c'est pas juste un grand médecin et une grande ordonnance. Le christianisme, c'est aussi un grand médicament. Ce que la prophétie d'Ésaïe 53, le texte auquel Matthieu fait référence ici, ce que la prophétie d'Ésaïe 53 nous apprend, c'est notamment que le Messie est venu, qu'il devait venir et qu'en effet il est venu pour s'offrir lui-même pour la guérison et la délivrance des croyants. Jésus est venu en effet se charger lui-même en personne de notre maladie génétique et incurable, c'est-à-dire de notre condition déchue. Et il a porté cette condition déchue, il l'a portée jusque sur la croix où il est mort pour expier nos fautes. Et il a emporté tout ce qui nous séparait d'avec Dieu, il l'a emporté avec lui dans la tombe, et il l'a laissé dans la tombe parce qu'il est ressuscité, victorieux le troisième jour. Et maintenant Jésus se présente à nous vivant comme ce grand médicament en personne. Et si nous le recevons et si nous le prenons ce médicament, il nous assure de ressusciter un jour à notre tour comme lui et de vivre éternellement avec lui dans le royaume de Dieu en étant débarrassé pour toujours de tout péché, de toute souffrance et de toute maladie. C'est un médicament qui existe, c'est le seul qui existe et il est efficace. C'est Jésus, notre médicament. Et donc, en introduction, on parlait de cette bonne réputation, plutôt bonne réputation, n'est-ce pas, que Jésus a, non seulement dans l'Église chrétienne, bien sûr, mais aussi en dehors de l'Église. Beaucoup de gens, donc, des athées, des juifs, même des musulmans, et d'autres encore, reconnaissent que Jésus, c'était quelqu'un de bien. Jésus, un grand homme. Jésus, un héros, peut-être. Jésus, un prophète, sans doute. Jésus, un exemple, certainement. Mais franchement, le Jésus de la Bible mérite-t-il qu'on l'admire seulement ? Le Jésus du passage qu'on a lu, en tout cas, mérite beaucoup plus que ça. Hein. Et c'est bien la leçon que Matthieu a voulu nous transmettre, je pense. Jésus ne doit pas seulement faire l'objet de notre admiration, mais il doit faire l'objet de notre foi. On a vu que Jésus était un prophète hors norme en raison du genre de puissance qu'il était capable de déployer. On a vu que Jésus avait une telle autorité que notre réponse à cette autorité conditionnait notre appartenance au royaume de Dieu. Et on a vu enfin, pour couronner le tout, on a vu que Jésus était venu se charger, ni plus ni moins, que de la condition déchue des hommes. C'est pas rien. Ça suscite l'admiration, certes, mais j'espère bien plus que de l'admiration. Quelle est votre posture devant Jésus ce soir? Grande admiration, donc? Ou bien mieux que ça, une foi personnelle et sincère? Est-ce que Jésus, c'est finalement, pour vous, essentiellement quelqu'un dont on parle le dimanche, un peu le jeudi soir, étude biblique, mais pas quelqu'un qui occupe une place importante dans votre vie personnelle ou dans la vie de votre famille? Est-ce que c'est ça, Jésus, pour vous? Est-ce que Jésus, c'est surtout pour vous peut-être un personnage historique, important, remarquable, attrayant, fascinant, mais qui vous paraît encore aujourd'hui plutôt lointain? Est-ce que Jésus, c'est pour vous quelqu'un qui représente simplement un enseignement, une certaine morale, une certaine intégrité, qui devrait, Jésus donc, qui devrait surtout être un exemple à suivre pour nous aujourd'hui? Est-ce que c'est ça, le Jésus de votre vie? Est-ce que Jésus, c'est pour vous un prophète, un grand prophète, certes, mais quand même un prophète parmi d'autres prophètes, qui contribue avec les autres à la richesse des religions dans le monde? Est-ce que c'est ça, Jésus? Pour vous, est-ce qu'il est comme ça? Je ne sais pas ce que représente Jésus pour vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Jésus, c'est peut-être une histoire à étudier, c'est peut-être un enseignement à suivre, mais c'est aussi et surtout une personne à connaître, une personne vivante à connaître. Et Jésus est, en personne, le remède à notre condition déchue en tant qu'êtres humains. Et j'espère de tout cœur qu'aujourd'hui, comme demain, et comme tous les jours de cette nouvelle année scolaire, j'espère de tout cœur que Jésus sera, et qu'il est déjà aujourd'hui, au cœur de notre vie et de la vie de notre Église. Amen.